Très bien. Donc, à nouveau, bonjour à tous et à toutes. Alors, après avoir consacré deux messages au chapitre 2 de l'épître de Jacques, chapitre 2 qui m'a permis d'aborder quelques points qui semblent difficiles et qui pourtant sont très simples, puisque la parole nous dit que la foi doit être accompli par la marche par l'esprit, donc le passage de la chair à l'esprit est ce qui accomplit la foi. Une autre manière de dire, l'amour doit accomplir la loi. C'est la même chose. Nous devons passer d'une chair qui se fait religieuse quand on entend parler de l'évangile à une chair crucifiée qui permet à l'amour de s'exprimer envers Dieu et envers le prochain. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé d'exprimer lors des deux derniers messages. Et aujourd'hui, nous allons basculer vers le chapitre 3 de l'épître de Jacques. Donc à nouveau, vous me confirmez que vous entendez bien, que j'articule bien, c'est bon? Très bien. C'est important également pour vous, hein. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 3 et le chapitre 3 est sont consacrés à une seule chose, à un seul organe. Est-ce que vous savez lequel? La langue, voilà. L'organe par lequel nous péchons le plus. Donc Jacques y consacre un chapitre entier. Donc avant que de commencer à lire le texte pour aujourd'hui, donc je vous propose que l'on prie ensemble. Père Céleste, comme je viens de le dire, la langue est un petit organe dans notre corps et c'est pourtant celui par lequel nous péchons le plus, que cela soit en pensée ou en parole. Donc Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Que nos pensées soient pacifiées devant toi par ton esprit. Mais également, fais-moi grâce pour que les paroles que je vais prononcer en ton nom puissent édifier chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais découper le chapitre 3 de l'épître de Jacques en trois parties. Et aujourd'hui, nous allons regarder la première partie. Et même, vous allez voir que nous allons essentiellement nous consacrer au premier chapitre. Je vais lire ce matin, toujours pareil, dans la traduction de l'épître de Jacques, chapitre 3, les versets 1 à 5, traduits à partir de l'araméen. Que ne soient pas nombreux les enseignants parmi vous, mes frères, mais reconnaissez que nous sommes redevables et passifs, passibles d'un jugement plus grand. Car en beaucoup de choses, nous trébuchons et faisons faux pas, nous tous. Quiconque peut assujettir et asservir Pardon. Quiconque dans la parole ne trébuche pas, celui-là est un homme accompli et mûr. Un homme qui peut assujettir et asservir aussi tout son corps. Voici en effet, nous mettons un mors dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous soient assujettis et asservis. Et tout leur organisme, nous le faisons tourner et l'orientons. Ainsi aussi des navires puissants, quand un vent dur les emporte, par un petit bois, c'est-à-dire le gouvernail, ils sont dirigés vers le lieu que choisit la volonté de celui qui conduit et gouverne. Ainsi aussi la langue. Un membre, elle est, petit certes, mais elle s'exalte et elle se vante. Donc voilà le texte pour ce matin. Si on dézoome un petit peu et considère les trois parties du chapitre 3 de l'épître de Jacques, on pourrait résumer ainsi ces trois parties. Du verset 1 à 5, la langue, qui est un organe minuscule en taille, révèle pourtant et oriente tout l'homme. Et surtout, nous dit Jacques, celui qui enseigne, elle devient un critère décisif de maturité. Et nous allons voir ce matin qu'il y a une très profonde correspondance entre la langue et le cœur. Ensuite, dans les versets 6 à 8, la langue est présentée comme un feu. Livrée à la chair, la langue devient une puissance de destruction. Et nombre d'églises ont été détruites par l'œuvre d'une langue mauvaise. Donc c'est très très sérieux ce que l'on dit. Et enfin, la troisième partie, les versets 9 à 18, Jacques va souligner l'incohérence qu'il y a à vouloir à la fois bénir et maudire, faire couler de l'eau douce et de l'eau salée. Le cœur doit parler d'une seule voix et manifester ainsi une vie unifiée, pacifique et féconde. Ça, nous le verrons donc bientôt. Et donc, si on veut dérouler un fil cohérent dans l'ensemble de ces messages, on dirait que tout commence dans le cœur, puis s'exprime par la langue, dans des paroles adressées aux frères et sœurs, en particulier des paroles d'enseignement, et le but doit en être l'édification. Le cœur, la langue, l'enseignement, l'édification. Donc pour ce matin, je vais aborder les choses en deux parties, pour ne pas faire trop long. La première, ce sont des propos bibliques sur la langue, et cela nous concerne tous. Et deuxièmement, quelques traits spécifiques donc qui concernent ceux qui prennent la parole. Et donc en particulier, mais pas seulement, les enseignants. Alors d'abord, quelques généralités concernant la langue. Et je le rappelle, cela ne concerne pas que les enseignants, puisque la langue est l'organe de péché par excellence quand elle n'est pas maîtrisée par l'Esprit de Dieu. La première pensée, c'est que la langue est le révélateur du cœur. On connaît évidemment ces passages qui nous disent que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a un lien direct entre le cœur et la langue. De la même manière, ça je venais de citer un passage dans Luc 6, et de la même manière, dans Matthieu 12, la parole est le fruit du cœur. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et quand on parle de la langue, évidemment, on parle non seulement des paroles, mais également du monde des pensées. Hein? Parce qu'on peut cacher le monde des pensées aux autres, mais Dieu connaît le monde de nos pensées. Et c'est aussi une expression du Verbe en nous. Et la langue n'est que l'organe qui le rend audible pour les autres. Donc ça, c'est important. Comme Paul dira également dans Romains 10, que l'on croit du cœur et que l'on confesse de la bouche. Toujours ce lien entre le cœur et la bouche, vous voyez? Mais inversement, un cœur charnel, un cœur qui n'est pas circoncis, sera rempli de paroles acides et d'accusations. Je rappelle qu'en araméen, accuser, arel kartsa, ça veut dire littéralement arracher par la bouche des lambeaux de chair. C'est l'image d'un prédateur carnassier qui arrache les lambeaux de chair de sa victime. Voilà le pouvoir de la langue. Dans l'accusation, dans les paroles acides, dans la jalousie, dans les rivalités, c'est ce dont il sera question dans la troisième partie du chapitre 3 de l'Épître de Jacques. Mais inversement, un cœur qui est uni à Jésus va dégager un bon parfum, une bonne odeur, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 2, et une parole qui édifie et communique une grâce dans Éphésiens 4. Donc on voit déjà et on commence à sentir que si on veut être capable de garder sa langue, cela veut dire qu'il faut être capable d'abord de garder son cœur. Et je vais dire juste après en quoi cela consiste de garder son cœur. Parce que des fois on emploie des expressions, mais on se demande bien en pratique ce que cela peut bien signifier. Ce n'est pas pour rien que la parole nous parle beaucoup du cœur comme étant le lieu nécessaire d'une circoncision. Circoncision du cœur, c'est-à-dire que quelque chose doit être coupé et ôté. Ce que la première alliance appelle le prépuce du cœur et que la nouvelle alliance appelle la chair, la nature charnelle, la chair. C'est Jérémie dans le chapitre 17 qui nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, il s'agit d'un cœur qui n'est pas circoncis. Donc là encore, pour connaître l'état du cœur de quelqu'un, il suffit d'écouter les paroles. Vous voyez? Cela fait appel à du discernement. D'autres passages dans la parole, Deutéronome 10, Deutéronome 30, Jérémie 4 et également Romains 2 dans la Nouvelle Alliance, nous parlent de la nécessité de circoncire le cœur. Il est question également de cette circoncision dans Colossiens 2. Donc vous voyez, dans la parole, dès qu'il est question du cœur, un cœur à circoncire, vous pouvez immédiatement voir qu'il sera également question de la langue, puisque la langue à l'extérieur traduit ce qui se passe dans le cœur à l'intérieur. Vous voyez, il y a une correspondance directe entre le cœur et la langue, et donc la bouche. C'est pour ça qu'il est dit dans le Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. » Alors que veut dire garder le cœur? Puisque si je veux tenir ma langue en bride, si je veux maîtriser ma langue, cela signifie que je dois d'abord maîtriser mon cœur, qu'une œuvre de l'esprit doit être faite dans le cœur. Eh bien, garder le cœur revêt, à mon sens, deux dimensions. La première dimension, c'est l'amour, autrement dit, aimer Jésus. Garder son cœur, c'est garder un cœur aimant envers Jésus. Et donc ça, cela se cultive dans la communion, dans la prière, dans la méditation, surtout quand on est seul, face à face, avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je dis à chaque fois, le cœur de la vie chrétienne, c'est l'expérience de la communion avec Jésus, par la prière et autres moyens qu'il nous donne. Mais la deuxième manière de garder son cœur, c'est en gardant la parole. Et ça, ça va être l'objet de la deuxième partie de mon message d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je dis souvent. Et un verset, vous le savez, que je cite souvent, dans Jean 14, « Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. » Donc vous voyez que aimer Jésus n'est pas d'abord une question de sentiment, même si les sentiments peuvent être là, comme je l'ai dit juste avant, aimer Jésus et communier avec lui, mais c'est aussi une question de garder la parole. Garder la parole sans y ajouter, sans retrancher. Et donc, Dans la suite du message, je vais développer un petit peu, sous l'aspect de l'enseignant, ce que veut dire garder la parole, aimer Jésus, et donc garder son cœur. Puisque Jacques nous dit d'emblée, que ne soient pas nombreux les enseignants parmi vous, mes frères, mais reconnaissez que nous sommes redevables et passibles d'un jugement plus grand. Alors, vous voyez, quand on veut prendre la parole dans l'assemblée pour édifier les frères et les sœurs, il faut toujours être conscient que nous réentendrons ce que nous avons dit. Et d'autant plus quand on s'adresse à une assemblée. Mais c'est déjà vrai entre deux personnes. Nous réentendrons ce que nous avons dit si ce que nous avons dit n'est pas dans l'esprit, si ce n'est pas pour l'édification de l'autre. Comme je l'ai dit tout à fait au départ, le plus grand instrument de destruction d'une église, c'est la langue. Et on commence à parler sur les uns et sur les autres. Oh, c'est sûr, on va faire de belles prières pour les frères et les sœurs, mais après avoir pris soin de les critiquer en cachette, en disant « Ah, mais tu te rends compte ceci, tu te rends compte cela, mais nous allons prier. » Oui, mais en entre-temps, on a répandu un feu dangereux qui, s'il se répand dans l'Église, peut à terme la détruire. Donc faisons attention vraiment à cela. Alors pourquoi est-ce que Jacques cible particulièrement l'enseignant, celui qui prend la parole devant les autres? Parce que l'enseignement, en plus des partages fraternels de toutes sortes, a ceci de particulier qu'il va toucher à deux choses qui sont très 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 dangereuses pour la chair. La première chose, c'est la prise d'autorité. Et la deuxième chose qui va avec, c'est l'élévation de soi par la connaissance. Ce n'est pas pour rien que Paul dit que la connaissance, elle enfle. C'est l'amour qui édifie. Donc l'enseignant est particulièrement confronté à ces deux choses. La chair qui peut vouloir prendre autorité et également l'élévation dans la perception que l'on a de soi, l'élévation de l'âme, qui n'est rien d'autre évidemment que de l'orgueil. Donc la chair s'engouffre dans ces choses-là si le cœur n'est pas bridé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que prendre la parole devant les frères et les sœurs, dans les moments de méditation, les moments de partage, les moments d'enseignement, etc., etc., même les prières en assemblée, on peut s'exposer à un jugement plus grand, nous dit Jacques. Donc il y a une responsabilité dans la prise de parole. Et le grand danger, en particulier pour l'enseignant, c'est de parler sur Dieu sans être enseigné par Dieu. Je vous rappelle, c'est Jean-Baptiste qui dit « Un homme ne peut dire que ce qu'il a reçu de Dieu ». Je vais revenir un petit peu sur ça après. Donc le danger, c'est de parler sur Dieu à partir d'une connaissance livresque et non pas parler parce qu'enseigné par Dieu, c'est-à-dire à partir de la révélation de la parole qui devient vivante par l'Esprit. À partir de là, il y a deux axes qui sont importants. Le premier, c'est une question de fond, parce qu'on quand je lis, par exemple, Jean chapitre 6, verset 45, il est écrit « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Mais attendez, si chacun est enseigné de Dieu, nous n'avons plus besoin d'enseignants. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si nous sommes tous enseignés directement par Dieu, à quoi ça sert un enseignant? Donc on voit que l'enseignant n'est pas simplement là pour transmettre de la connaissance, puisque cette connaissance fondamentale, qui est la connaissance de Jésus, nous sommes tous censés la recevoir directement de Dieu par son esprit. Mais inversement, dans Marc 7, Jésus dénonce ces religieux qui annulent la parole de Dieu par leur tradition. Donc d'un côté, vous avez « Nous sommes tous enseignés de Dieu », donc à quoi bon avoir des enseignants? Et de l'autre, « Nous pouvons avoir des enseignants, mais dont l'enseignement annule la parole de Dieu, parce que cela relève non pas de la révélation de la parole de Dieu, mais de la tradition. Et on se fait promoteur et transmetteur d'une tradition morte. » Ça, c'est la question du fond. Et je vais redévelopper un petit peu encore après. Il y a également la question de la forme. Dans 1 Corinthiens 2, Paul dit qu'il n'a pas utilisé les techniques oratoires de son temps. Des paroles persuasives, de la logique humaine. Mais Paul n'était intéressé que par une démonstration d'esprit. Donc il restait en réserve et faisait confiance que Dieu utiliserait son esprit pour remplir la parole qui est dite. Donc pas d'artifices humains. Combien souvent dans certaines églises on recourt à des artifices humains pour essayer de décontracter l'assemblée avec des blagues, employer des techniques orales pour capter l'attention. Alors ça, c'est quand même une bonne chose, mais il ne faut pas faire un cirque non plus depuis la chair. Mais on peut également employer des techniques d'argumentation et de persuasion, donc en pensant que plus je serai persuasif et plus l'Esprit de Dieu agira. Non, ce n'est pas le cas. C'est dans la faiblesse que l'Esprit de Dieu agit et pas dans notre force. Donc on voit qu'avec ces problèmes de fond, quand on annule la parole de Dieu, ou ces problèmes de forme, quand on use d'artifices oratoires pour transmettre la parole de Dieu, nous risquons fort de prendre la place de l'Esprit. Et ça s'appelle un esprit anti-Christ. Et donc toute position d'autorité dans l'Église est susceptible d'être séduite par cet esprit antichrist. Anti en grec veut dire prendre la place de. Vous voyez? Donc un enseignant peut facilement prendre la place de Dieu en allant contre l'enseignement que les frères et sœurs reçoivent directement de Dieu, ou alors en transmettant une parole humaine qui va annuler la parole de Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas simple. Alors puisque Jacques cible les enseignants, voilà en quelques points comment je définis le rôle d'un enseignant. Et donc ça nous concerne tous, hein, dès lors que nous voulons enseigner notre frère, notre sœur, à partir d'un passage que l'on a lu, un partage que nous voulons faire en tête à tête ou dans l'assemblée, faisons bien attention à ceci. Premier point, le serviteur de l'œuvre intérieure de l'esprit, voilà ce qu'est un enseignant, et non pas un distributeur d'informations. Autrement dit, le but n'est pas de remplir la tête, mais de conduire à la révélation de Jésus. Dans Jean 5, je rappelle ce passage que je cite souvent. Jésus reprochait aux religieux de son temps ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, elles parlent de moi et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Autrement dit, exposer la parole, c'est d'abord et avant tout parler de Jésus. Si on met autre chose au centre de l'Écriture, il y a un sérieux problème. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait enseigner que ce que l'on avait reçu de Dieu. Alors c'est intéressant parce que lorsque les religieux étaient confrontés à Jésus, dans Jean 7, ils se disaient entre eux, mais comment est-ce que Jésus connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Alors avouez avec moi que c'est quand même un comble que de dire que Jésus, la parole de Dieu, le Fils du Dieu vivant, n'avait pas étudié, et que par conséquent, les religieux ne lui reconnaissaient pas l'autorité d'enseigner aux foules. C'est quand même étonnant. Donc vous voyez, ce critère, nous l'avons encore aujourd'hui. Hein, lorsque, voilà, l'un ou l'autre prend la parole à l'assemblée, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il a fait une fac de théologie? De quelle école biblique se réclame-t-il? Quelle est sa théologie? Hein, parce que, suivant la théologie que la personne aura développée, eh bien, on l'écoutera ou on ne l'écoutera pas. Voilà, plutôt de se dire, mais ce qu'il partage, est-il inspiré par l'Esprit de Dieu et est-ce conforme à l'Écriture? Voilà, nous avons nos propres critères. A-t-il reçu le bon diplôme? A-t-il la bonne théologie? C'est intéressant parce que c'est également ce qui a été reproché à Pierre et Jean dans Acte 4. Pierre et Jean avaient été reconnus comme étant des incultes. Et pourtant, les religieux ont bien été obligés de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Et par conséquent, la véritable formation, elle est d'abord dans la communion avec Jésus et dans la révélation de la parole. Et ensuite, on peut lire des livres, on peut évidemment s'informer sur beaucoup de choses, mais tout cela doit être soumis d'abord et avant tout à Jésus. C'est comme ça que, comme il est dit également dans Matthieu 7, les religieux étaient obligés, non pardon, c'est pas les religieux, c'est la foule, intéressant, pas les religieux, la foule était obligée de reconnaître que Jésus enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Ça c'est un point important et ça fait appel à au discernement de l'assemblée. Quand quelqu'un, moi compris, se tient devant l'assemblée, parle-t-il comme un scribe en répétant des choses qui ont été lues dans des livres, ou parle-t-il par inspiration à partir de ce qui est révélé dans la parole? Ça, c'est un point qui est important. Sinon, nous faisons ce que Jacques dit dans le verset 5, et je le reprends. La langue est un membre petit, mais qui s'exalte et se vante. Et on peut très facilement, à partir de la parole de Dieu, et je l'ai déjà dénoncé dans les deux derniers messages, être dans la proclamation, l'avantardise, l'affirmation de choses que l'on ne vit pas, et très vite on glisse vers un mensonge. Alors on qualifiera ce mensonge de mensonge pieux, mais c'est quand même un mensonge. Donc faisons attention là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, je rejoins avec ce que j'ai dit les deux dernières fois où je suis passé au Creusot. Le deuxième point, c'est que l'enseignement doit conduire de la foi initiale, celle que l'on reçoit lors de l'appel, à l'accomplissement de cette foi, c'est-à-dire le passage par la mort et la vie. La mort par la crucifixion de la chair, et la vie par la marche par l'esprit. La justice de la loi est accomplie en ceux qui marchent par l'esprit, nous dit Paul dans Romains 8, verset 4. Et donc le but de l'enseignement, c'est de mener de cette foi initiale à l'accomplissement de la foi. Ou de mener, comme le dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1, de cette foi initiale que l'on reçoit à l'amour qui accomplit la foi. Et le chemin qui mène de la foi à la justice ou de la foi à l'amour, c'est la repentance. C'est la confrontation à une parole vivante et efficace qui découpe notre cœur ou qui circoncit notre cœur et met à nu, tiens, les pensées secrètes de notre cœur, celles précisément qui sont exprimées par la langue. Donc il y a aussi ce rôle-là de l'enseignant qui n'est pas facile. Je pourrais vous dire, ah, mais tout va bien, tout va très très bien. Il y a des enseignants comme ça qui vont conforter si la personne a des doutes, si la personne a des questions, mais t'inquiète pas, positionnellement, tu es déjà sauvé, etc., etc. On est dans l'affirmation et la proclamation. Plutôt que de se dire, mais où en est la personne entre la foi et l'accomplissement de la justice? Est-ce qu'elle est encore sur ce chemin-là, ou est-ce qu'elle a connu l'accomplissement de la justice en passant de la chair à l'esprit? Ou alors on va se dire, mais où en est la personne entre la foi et l'amour qui va accomplir l'œuvre de la foi, qui accomplit la loi, par l'écriture de la loi dans le cœur? Est-ce qu'elle a connu cette étape, ou est-ce qu'elle est encore dans ce doute, j'allais dire dans ce désert? Voilà, enseigner la parole, c'est aussi discerner cela pour savoir où chacun en est et pouvoir parler en fonction. Il ne s'agit pas de conforter le chrétien ou la chrétienne, le frère ou la sœur dans des illusions, mais de discerner où est-ce que chacun en est, soi-même compris, dans ce chemin qu'est Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Donc ça, c'est un aspect qui est important. L'enseignant accompagne vers l'amour qui accomplit, vers la foi qui vivifie. Et évidemment, en faisant cela, le but est l'édification du corps. Pourquoi? Pour que cela puisse faire place aux œuvres de l'esprit. Et j'aime bien dans les assemblées, que ce soit au Creusot, mais également on le vit dans la petite assemblée dans laquelle je vais le vendredi soir à Grenoble, enfin plutôt une ville proche de Grenoble, on peut voir que dans ce partage, ces temps de partage horizontal que l'on peut avoir les uns avec les autres, c'est très beau toujours de voir comment l'esprit peut s'exprimer par l'un et par l'autre. Ça, c'est ce qui est rendu possible donc par une parole appropriée dont le but est l'édification du corps. Et enfin, le rôle de l'enseignant, c'est aussi, mais c'était vrai pour chacun de nous bien sûr, c'est de démasquer les ruses de la chair. Vous savez, quand nous sommes appelés, notre chair paillarde devient chair religieuse. Et elle va tâcher d'avoir une bonne apparence de bon chrétien à l'extérieur aux yeux des autres. Ça, c'est la première stratégie de la chair, elle devient religieuse. Eh bien, il nous faut également discerner les ruses de la chair pour la démasquer, afin qu'elle ne puisse pas échapper à la croix. Ça aussi, c'est le rôle, quand nous partageons les uns avec les autres, de ne jamais oublier que la croix doit être au centre. Et c'est important de démasquer les ruses de la chair. Une des ruses, pour moi, classiques de la chair, c'est le discours binaire. Hein? On partage avec un frère, et puis on voit ce frère qui dit quelque chose qui nous semble faux, et donc nous sommes confortés d'être dans le vrai, puisque l'autre est dans le faux. Voilà, souvent on raisonne comme ça. Hein? Et ça, c'est vrai entre églises. Moi, j'ai la bonne théologie ou la bonne manière de mener mon église, parce que je vois très bien que l'église de l'autre côté de la rue est à côté de la plaque. Évidemment, ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'église en face de la rue pense exactement la même chose de nous. Vous voyez, on se renforce en pensant être dans le vrai, parce que l'on voit ce qui n'est pas correct chez l'autre. Faisons très très attention à ça. C'est un mode de pensée qui est binaire. C'est pour ça que pour ma part, je fais toujours appel à une pensée ternaire. Alors je vous donne à nouveau des exemples pour que ça soit clair, parce que ça n'a pas l'air de l'être pour beaucoup. Quand Paul s'adresse aux Grecs dans Actes 17, il dit « En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Le mouvement et l'être, les deux pôles de la philosophie grecque, mais la vie, que j'appelle la troisième voie, c'est la voie de la vie, c'est la voie de l'esprit, c'est la troisième voie. La raison humaine, mouvement et être, la troisième voie, l'esprit. Mais c'est pareil dans 1 Corinthiens 2, quand Paul dit « Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons la croix, qui est à la fois puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Les miracles, la sagesse, la croix. Trois, pas deux, trois. Et les deux dernières fois, j'ai eu l'occasion donc de parler, les œuvres paillardes d'un côté, les œuvres religieuses de l'autre, et la troisième voie qui sont les œuvres de l'esprit préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres paillardes, les œuvres religieuses, ça c'est la chair, et les œuvres de l'esprit. Donc toujours un schéma à trois. Donc pour ma part, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. J'écoute quelqu'un parler, j'écoute un enseignant parler, et je discerne assez rapidement s'il parle de manière polarisée ou de manière équilibrée. En ouvrant sur la voie de l'esprit, après avoir dénoncé les voies de la chair. Enfin, un dernier point, je ne veux pas faire trop long aujourd'hui. Un dernier point, si je ne marche pas moi-même sur le chemin, et quand je dis moi-même, c'est générique, hein, si on ne marche pas soi-même sur le chemin, comment peut-on le montrer aux autres? Et comment peut-on en parler? Dans Luc 6, Jésus dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Et au début de l'épître aux Romains, Paul fera le même reproche aux religieux. Toi qui dis que tu vois, et en fait tu es aveugle. Dans 1 Timothée 4, Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Notez qu'il ne dit pas « veille sur ton enseignement », mais « veille sur toi-même », c'est-à-dire sur ton cœur et sur ton enseignement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure à propos de Jean-Baptiste, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Donc, comment montrer le chemin si je n'y marche pas moi-même? Et ça, cela demande de l'expérience, cela demande de la maturité dans la parole. Je l'ai déjà dit et je le répète, je suis frappé de voir combien souvent on confie l'enseignement à des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience dans le Seigneur. Et donc ils auront tendance à retransmettre ce qu'ils ont lu et non pas ce qu'ils ont expérimenté. C'est l'épreuve de la foi qui est le test de l'enseignement. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on lit, c'est l'épreuve de la foi, les épreuves que l'on endure qui vont être le test de l'enseignement. Parce que qui dit épreuve dit recherche dans la parole, pour comprendre l'épreuve et la dépasser. C'est l'expérience qui permet l'enseignement. Ça ne s'apprend pas dans des livres. Alors, une fois que j'ai dit ça, on se dit « ouïouïouï ». Alors là, je ne vais plus ouvrir la bouche dans l'assemblée. Non. Rassurez-vous, il ne faut pas être parfait pour pouvoir témoigner, prêcher, enseigner, etc. Et dans ce cadre-là, je pense toujours, c'est une petite histoire qui m'avait frappé il y a bien longtemps. C'est lorsque John Wesley, donc le prédicateur anglais du XVIIIe siècle, avait rencontré au début de sa vie chrétienne les frères Moraves, donc d'Allemagne. Et en particulier lors d'une célèbre traversée de l'Atlantique en 1735-1736, il y a eu une forte tempête, et voilà John Wesley qui était tout tremblant dans le bateau, mais il y avait également dans le bateau des frères Moraves qui chantaient des cantiques en se disant « Mais que l'on vive ou que l'on meure, c'était la grâce de Dieu » et ils étaient radieux. Et John Wesley a été profondément marqué par cette expérience de la rencontre de ses frères Moraves en pleine tempête et traversée de l'Atlantique. Aussi, 2 années plus tard, en 1738, il voulut rencontrer des frères moraves et comprendre un petit peu, mais comment cela se fait-il que ces frères moraves étaient si tranquilles et apaisés alors qu'ils étaient potentiellement sur le point de mourir. Et en particulier, il doutait, John Wesley, de sa foi, il doutait de sa vie spirituelle, il disait, mais comment est-ce que je peux parler aux autres alors que je ne suis pas sûr pour moi-même, etc. Et les moraves lui ont dit quelque chose d'extrêmement simple. Prêche la vérité telle que tu la comprends jusqu'à ce que tu la vives. Et quand tu la vivras, tu la prêcheras parce que tu la vis. Une autre manière de dire la chose, prêche la foi jusqu'à ce que tu aies cette foi vivante qui accomplit, comme on l'a dit tout à l'heure dans Jacques, comme on l'a dit les dernières fois dans Jacques 2, jusqu'à ce que cette foi accomplisse la justice dans ta vie. Prêche-la jusqu'à ce qu'il y ait cet accomplissement. Et ensuite, tu la prêcheras parce que tu as expérimenter cet accomplissement et tu en connaîtras donc le chemin. Vous voyez? Donc, nous sommes tous en chemin. Nous avons tous des choses à apprendre. Donc, on ne va pas attendre d'être parfait pour dire quoi que ce soit. Mais ayons quand même cette pensée qu'il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à accomplir, il y a un progrès à faire. Et au fur et à mesure de ce progrès et de cette avance, nous parlerons en conséquence. Et s'il y a des choses qui nous sont révélées dans la parole et que l'on ne vit pas encore, eh bien parlons-en déjà comme d'une parole vivante, avec la foi que Dieu va l'accomplir. Je parle bien de l'affirmation d'une parole vivante, hein. Je ne parle pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de proclamation en l'air et de vantardise de la chair, qui sont autant d'excuses pour que la chair ne soit pas crucifiée. Un dernier point, toujours lié à l'enseignement, et à nouveau c'est vrai pour chacun. Et je reviens maintenant sur un point de départ. J'avais dit tout à l'heure que ils seront tous enseignés de Dieu. Donc on pourrait dire, ben voilà, chacun reçoit l'enseignement direct du Seigneur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous enseigne. Dans ce cas, vous pouvez tous vous lever et quitter la salle. Vous voyez? Si on va dans la logique extrême de « nous sommes tous enseignés de l'esprit, j'ai pas besoin de l'autre ». Le risque de ça, évidemment, c'est de rester seul. Et dans ce cas, pourquoi y a-t-il des enseignants dans l'Église? Mais ça conforte également la chair. Oh, j'ai pas besoin de toi. C'est Dieu seul qui m'enseigne. Qui es-tu pour me dire quelque chose? Voyez, si on pousse à l'extrême ce verset-là. Mais il y a l'autre risque opposé, qui est de penser qu'un enseignant, son rôle, c'est de bourrer le crâne. Et j'ai connu ça, hein. C'est-à-dire des gens qui, voilà, dès qu'on parle avec eux, voilà, il faut qu'ils assènent des tas de vérités bibliques, et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, en pensant que plus ils bourreront le crâne, plus ils feront l'œuvre de Dieu. Voilà. Moi, j'en ai connu comme ça, je les shunte et je les mets à distance, parce que ça devient insupportable. Donc là encore, vous voyez, la thèse et l'antithèse. Un extrême, ils seront tous enseignés de Dieu, et l'autre extrême, on veut enseigner tout le monde. Comment trouver la troisième voie, c'est-à-dire la voie de l'esprit? Elle se manifeste tout particulièrement avec des jeunes convertis. Et j'avais déjà parlé de ça, mais il est bon de le répéter. Quand un jeune vient à la foi, et quand je dis jeune, je ne parle pas de l'âge, hein, je parle de l'âge dans la foi. Quand quelqu'un vient à la foi, il peut être tentant de justement lui transmettre beaucoup de connaissances. Et on oublie que c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne d'abord le converti. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne le converti. Ça, c'est pour la thèse. Ils seront tous enseignés de Dieu. Alors, comment est-ce que je fais? Eh bien, on accompagne l'enseignement de l'esprit en abordant avec le jeune converti uniquement les sujets que l'esprit lui révèle dans la parole. Et donc, on va se soumettre en tant qu'enseignant à l'œuvre de l'esprit qui est en train de se faire chez le jeune converti en accompagnant cette œuvre plutôt qu'en en prenant la place. J'ai déjà expérimenté cela et je peux vous dire que c'est extrêmement efficace pour un jeune converti qui, en quelques mois d'accompagnement comme cela, va grandir très 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 vite dans la foi. Parce que l'initiative est laissée à l'esprit et autant le converti que l'enseignant se soumettent à l'esprit. Et donc en pratique, tel frère auquel je pense, tout jeune converti, commençait à lire tel passage dans l'écriture et puis il avait une question. Et donc il s'agissait de dire, ah ben tu vois, dans tel passage, on peut le comprendre comme ça. Ah oui, mais ne rien dire de plus, ne rien rajouter, laisser à chaque fois aux jeunes convertis de revenir avec de nouveaux passages en demande de nouvelles explications liées au passage et ne pas aller au-delà. Alors au départ, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Telle question, tel passage, et à un moment donné, on voit Jésus qui émerge. On voit que la cohérence est en train de se mettre. Donc l'esprit va toucher par des petites touches comme ça dans la parole, et à un moment donné, tout cela devient cohérent, et le jeune converti commence à avoir une vision claire et de l'écriture et de Jésus. Donc ça, c'est la troisième voie, accompagner chez le jeune converti l'œuvre de l'esprit et donc se soumettre soi-même à l'esprit qui agit chez l'autre. Plutôt que de penser que par le bourrage de crâne, on va faire avancer quelqu'un. Ça, c'est la troisième voie. Et c'est comme ça également que l'on évite les querelles, les disputes de mots, les débats théologiques. Ça, c'est le genre de choses, dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 2, qu'il faut absolument fuir. Donc, quand on détecte un esprit de dispute et un esprit de querelle, gardons nos distances. Ce n'est pas avec des arguments que l'on va convaincre la personne. Je crois avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous partager pour ce matin. Donc simplement sur la base de ce premier verset, je le répète, que ne soient pas nombreux les enseignants parmi vous, mes frères, mais reconnaissez que nous sommes redevables et passibles d'un jugement plus grand. Et j'ai fait le lien avec le verset 5, la langue est un membre petit, mais qui s'exalte et se vante. Donc ça c'est le danger de la langue. Et donc si nous péchons beaucoup par la langue, il faut savoir que notre combat se situe non pas au niveau de la langue, parce qu'après tout, vous connaissez certains mouvements dans les premiers siècles de l'Église. Il y avait des mouvements ascètes qui pensaient que comme on pêche par la langue, eh bien je vais aller m'isoler dans un coin dans le désert, comme ça je n'aurai plus personne avec qui parler et je ne pêcherai plus avec la langue. Voilà, ben, c'est pas la réponse. Hein. La réponse biblique, c'est de s'occuper de son cœur, qui est la source des paroles et la source des pensées. Et la source des pensées et des paroles, c'est le cœur. Garder le cœur, c'est garder la communion avec Jésus dans la vie de prière et garder la révélation de la parole. Ce sont les deux éléments importants, donc qui sont inséparables, la communion avec Jésus dans la prière, aimer Jésus et garder la parole. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. De la part de notre bien-aimé Jésus, gardons notre cœur plus qu'autre chose, et c'est comme ça que l'on va dominer et dompter la langue. Je rappelle que dans la Bible, quand on fait une étude biblique, on voit que le cœur est le siège de l'esprit. Donc, c'est bien en cultivant la communion avec Jésus que l'esprit vient s'installer dans notre cœur, et que l'esprit, pas nos forces, l'esprit va maîtriser et dompter notre langue pour la mettre à son service. Voilà, que le Seigneur accompagne cette parole par son bon esprit. Amen.